Nous allons reprendre, si vous voulez bien, et vous allez avoir des images. Vous allez être contents. Notre invité d'aujourd'hui est Jean-Louis Janel. Jean-Louis Janel est aujourd'hui maître de conférence à la Sorbonne, à Paris 4, de l'autre côté de la rue Saint-Jacques. Il y enseigne la littérature et aussi le cinéma. Il a fait une thèse importante il y a quelques années que j'ai eu le bonheur de diriger à la Sorbonne, et qui porte sur le genre des mémoires au XXe siècle. Et cette thèse a donné lieu à la publication de deux volumes, deux gros volumes importants, publiés chez Gallimard. Le premier en 2006, il y a deux ans, intitulé « Malraux, mémoire et métamorphose ». Il y avait une partie importante sur les mémoires ou les anti-mémoires de Malraux dans sa thèse. Et le deuxième livre vient de paraître au cours de l'automne 2008, toujours chez Gallimard, et porte pour titre « Écrire ses mémoires au XXe siècle, déclin et renouveau ». Les grands auteurs sur lesquels il a travaillé dans cette thèse et dans ses livres, mis à part Malraux, qui est le grand mémorialiste du siècle, ses auteurs de prédilection, ce sont le général de Gaulle, bien sûr, mémorialiste magistral, Simone de Beauvoir, et quelques autres. Il travaille aujourd'hui donc beaucoup sur les brouillons de Malraux, et je ne sais pas si c'est de lui qu'il sera question.
Non.
Ce ne sera pas de Malraux qui sera question, non. Mais c'est un titre qui aurait pu nous renvoyer à lui, mais non. Oui. Les mémorialistes sont-ils de bons témoins de notre temps? À vous, je vais peut-être descendre, et on emporte un peu d'eau.
Je me sentir un peu isolé. Je vous remercie. Et je dois dire que je suis très heureux d'être ici. C'est très impressionnant quand on arrive. On n'a pas l'habitude de l'autre côté de la rue à la Sorbonne d'avoir des amphithéâtres aussi pleins, aussi attentifs, aussi sérieux. Vous savez que cette semaine va sortir un film de David Fincher, qui est un réalisateur américain très important, dont les œuvres sont absolument fabuleuses. Et ce livre est va être un film à grand spectacle. Il est joué par Brad Pitt et d'autres, Kate Blanchett, etc. C'est un film qui porte sur l'histoire d'un individu qui naît vieux et dont le cours de la vie est inversé, qui rajeunit, qui ne cesse de rajeunir. Mais il faudrait faire les études exactement de la même manière. Il faudrait commencer adulte ses études et puis petit à petit se libérer de tout cela, oublier ce qu'on a appris. Et voilà. On aurait des amphithéâtres beaucoup plus sérieux, enfin beaucoup plus attentifs que ceux qu'on a. Donc c'est très agréable. Alors, je vais commencer cette intervention en parlant d'un texte qui résume à mes yeux tout ce que l'on peut dire du témoignage, sans appartenir pour autant à ce genre, directement. Il s'agit de « Notre jeunesse » de Charles Péguy, où se reconnaissent les différents traits constitutifs de ce que nous appelons aujourd'hui le témoignage. Et je reviendrai sur cette question de la définition parce qu'elle est assez complexe. Peut-être vous souvenez-vous qu'il y a question de la publication d'archives personnelles que le représentant d'une famille de républicains fourriéristes, la famille des Millet, a confié à Péguy. Contre l'histoire endimanchée, l'expression est de Péguy, des grands hommes, à laquelle les disciples de Clio se consacrent de manière presque exclusive, le directeur des cahiers de la quinzaine privilégie, de manière qui est tout à fait visionnaire, ce qu'il appelle l'histoire de tous les jours de la semaine. Autrement dit, l'histoire d'une famille moyenne, véritable incarnation de la mystique républicaine, qui est la préoccupation de Péguy, dont l'affaire Dreyfus a été le dernier soubresaut et qui, à l'époque, est sur le point de disparaître définitivement. Et notre jeunesse s'ouvre sur ce célèbre postulat. Je croirais bien volontiers, avec Halévy, qu'un petit nombre de fidélités familiales, dynastiques, héréditaires, ont maintenu, maintiennent la tradition, la mystique et ce qu'il nommerait très justement la conservation républicaine. Mais où je ne croirais peut-être pas avec lui, c'est que je crois que nous en sommes littéralement les derniers représentants. Et à moins que nos enfants ne s'y mettent, presque les survivants, posthumes, en tout cas les derniers témoins. Et le mot témoin est souligné par Péguy. Alors, qu'est-ce que désigne ici ce pronom personnel « nous » Qui sont les témoins dont parle Peggy? Très certainement les lecteurs des cahiers de la quinzaine, mais au fond, cela importe peu. L'essentiel touche ici aux conditions dans lesquelles sont transmises les documents de la famille Millet. Il n'y a de témoins que parce qu'existent ces pièces d'archives, ces traces écrites que quelques personnes s'efforcent de conserver, de transmettre aux générations futures, afin de faire connaître, de donner à connaître une réalité sociale, historique, politique qui est appelée à disparaître. Il y a danger, en quelque sorte, urgence. Le témoin, c'est cet homme qui se fait le porte-parole d'un groupe, d'une communauté rendue silencieuse ou étouffée, dissoute, autrement dit, qui affronte une opinion publique peu réceptive, car indifférente ou aveuglée. Peggy, c'est cette voix criant dans le désert de la société moderne, assuré néanmoins qu'il remplit un devoir moral, et ceci en dépit de ce qu'il appelle très joliment sa maigre situation, c'est-à-dire de son absence d'autorité institutionnelle. Vous connaissez tous les problèmes d'argent que pouvait avoir Peggy, dont la revue manquait de disparaître à chaque moment. Alors je ne commande pas plus avant notre jeunesse, que j'invoque ici non par goût du paradoxe, mais parce qu'il y a chez Peggy une extraordinaire préscience de la nature même du genre testimonial et du rôle que celui-ci va être amené à jouer après la Première et surtout la Seconde Guerre mondiale. De même donc que Valérie Larbaud parlait de la traduction sous l'invocation de Saint-Jérôme, c'est le titre de cet ouvrage consacré à la traduction, c'est sous l'invocation de Peggy que j'aimerais placer les quelques réflexions que je vais vous présenter. Mon objet va être assez limité, je ne parlerai que du témoignage littéraire, tel que nous le définissons ordinairement aujourd'hui, à la fin du XXe siècle. Je laisserai de côté tous les aspects anthropologiques, philosophiques ou esthétiques, dont n'ont pas manqué de parler, par exemple, les deux orateurs qui m'ont précédé, Franck Lestringon et Bernard Seff, qui traitaient, leur point de vue était historiquement plus large, de textes du XVIe siècle. Ce ne sera pas mon objet, je parlerai vraiment des textes du XXe siècle. Seconde précision, ma principale préoccupation sera celle du statut de ce genre, que la plupart des spécialistes limitent soit au récit de la Shoah de manière quasi exclusive, c'est le cas de la plupart des spécialistes français, soit à l'ensemble des récits de génocide, ce qui me paraît dans les deux cas contestable, pour des raisons sur lesquelles je reviendrai. Mon intention va être de resituer le témoignage dans ce que j'appelle le continuum des genres à la première personne, autrement dit dans l'ensemble des récits factuels, dans lesquels un individu reconstitue par écrit son existence. Et je devrais, pour des raisons de temps évidentes, me limiter au cas des mémoires, mais le même type d'analyse comparée pourrait être faite avec l'autobiographie, la chronique, les journaux, etc. Les genres sont très variés, pluriels, mais je me limiterai ici aux mémoires. Et je vais m'appuyer sur deux exemples privilégiés, donc pas Malraux, ce sera le cas de Charles de Gaulle, je m'appuierai sur les mémoires de guerre du général de Gaulle, qui représente l'antithèse même du genre testimonial, du témoignage, tel qu'on le conçoit aujourd'hui, et les mémoires d'un révolutionnaire de Victor Serge, que je vous présenterai un peu, puisqu'il est moins connu, évidemment. Les mémoires d'un révolutionnaire étant, à l'inverse des mémoires de guerre de Gaulle, situés, eux, à l'intersection même des deux modèles littéraires, d'où l'intérêt de ce texte. Donc, deux mémoires ou deux récits de vie majuscules, et je précise ici que je vais prendre ce terme « récit de vie majuscule » comme un synonyme exact du terme « mémoire ». J'espère vous convaincre que, pour comprendre les enjeux poétiques et littéraires que soulève le témoignage au XXe siècle, le moyen le plus direct est paradoxalement d'en passer par ce détour par le biais des mémoires. Et la question que je vais me poser est au fond très simple. Je vais me demander pour quelles raisons et dans quelles conditions le mémorialiste, qui a longtemps fait figure de témoin historique, je reviendrai sur cette formule de témoin historique, jouissant d'une légitimité conquise de haute lutte dès la fin du XVe siècle et au cours du XVIe et XVIIe siècle, contre les historiens officiels et contre les pédants, puis avec le temps unanimement respecté au XVIIIe, XIXe siècle, a soudain, ce mémorialiste, perdu une partie de son prestige et subi, à partir de la fin du XIXe et tout au long de la première moitié du XXe siècle, la concurrence de plus en plus rude d'une nouvelle instance, celle du témoin contemporain, pensé comme figure du survivant, sous cet angle-là, le survivant. Alors, avant d'en venir au mémoire de guerre, j'aimerais préciser les raisons pour lesquelles je choisis d'emprunter ce détour par les vies majuscules. Elie Wiesel écrivait en 1977 que le témoignage représente le seul genre littéraire nouveau au XXe siècle, né du génocide à la fin, à la suite de la Seconde Guerre mondiale. C'est une idée qui est aujourd'hui couramment admise, bien qu'elle implique une confusion, à mon avis, entre la question théorique du témoignage et l'objet auquel elle s'applique ou auquel on l'applique. Et la plupart des spécialistes, je le disais, s'intéressent presque exclusivement à la Shoah. Certains, à la suite de Todorov, s'attachent à la fois au camp nazi et au camp soviétique, en essayant de tracer des parallèles, des comparaisons, avec toutes les précautions qui s'imposent, bien sûr. D'autres, et dans la masse des travaux menés en France sur cette question, il me semble que les plus intéressants sont ceux de Catherine Cocchio, qui me paraissent les plus féconds, parce que Catherine Cocchio élargit la notion de témoignage, elle est plus largement étendue qu'à l'ordinaire, et pour Catherine Cocchio, cette notion couvre l'ensemble des récits de catastrophes ou des génocides sur l'ensemble du XXe siècle, depuis le génocide arménien jusqu'au Rwanda et au génocide en cours actuellement. Et ce qui permet à Catherine Cocchio, bien sûr, d'y inclure tout à fait logiquement les nombreux récits de la Première Guerre mondiale recensés par Jean Norton Crue dès 1929. Reste qu'en assimilant le témoignage à cette expérience de la catastrophe, les spécialistes se fixent de facto toute une série de questions qui sont inévitablement liées à ce corpus. Ces questions, elles fonctionnent très généralement par couple conceptuel binaire. Par exemple, certification versus indicibilité, ou alors véridicité versus mise en forme narrative et par conséquent glissement du côté de la fiction, ou encore authenticité versus qualité esthétique, etc. Il y a toute une série de couples conceptuels binaires qui peuvent être ainsi déclinés. Il me semble plus intéressant d'inverser la perspective et, au lieu de partir d'un objet ou d'une période donnée, de s'attacher au contraire au genre lui-même, en se demandant comment est apparu cette forme littéraire à laquelle on a associé le genre, le terme, la catégorie du témoignage. Les écrits à la première personne formant, je le disais, un continuum, où chaque forme interagit sans cesse avec les autres, une sorte de système homéostatique dont tous les éléments sont interdépendants et dans lesquels les mémoires vieux de 5 siècles jouent un rôle essentiel, c'est par rapport à eux qu'on peut essayer de réfléchir à ce processus. Le problème, c'est de savoir donc à partir de quel moment un genre aussi autorisé que celui des mémoires, des vies majuscules, s'est vu concurrencé par ce témoignage. Alors, c'est un processus qui est difficile à dater, mais on peut le faire débuter de manière très large, très générale, avec la commune. C'est ce que montrent les textes très intéressants de Louise Michel, de Jean Allemagne, de Victorine B. ou de Maxime Vuillaume, par exemple. Alors, les deux textes de Louise Michel et de Jean Allemagne sont intéressants puisque tous deux ont intitulé leur témoignage « Mémoire ». C'est le terme qui était en usage et qui est resté en usage très très longtemps d'ailleurs, jusqu'à la seconde moitié du XXe siècle. Mais différents critères permettent néanmoins d'y repérer un glissement tout à fait manifeste du côté de ce qu'on appelle le témoignage, à commencer par la posture qu'adoptent ces auteurs. En effet, par tradition, les mémorialistes s'autorisent de leur appartenance à une classe sociale, ou de la légitimité que leur confère un statut, ou des titres, ou encore de leur fonction officielle, ou encore donc des faits qu'ils ont accomplis et dont ils ont tiré une importante reconnaissance publique. Il n'y a rien de tout cela chez ces acteurs de la commune qui ne disposent pas de la respectabilité préalable et qui interviennent afin de raconter un événement qui a bouleversé leur existence et d'en dénoncer les conséquences. Et on reconnaît là déjà ce que feront par la suite les témoins de la Grande Guerre, les survivants des camps ou des génocides, ou les victimes, c'est un cas de corpus très intéressant et pas du tout étudié, le cas des témoins de la guerre d'Algérie et des deux côtés, dans les deux camps aussi bien, puisque dans les deux camps on a beaucoup écrit, on a beaucoup publié, du côté des adversaires de l'Algérie française comme du côté de ses partisans radicaux. Et il y en aurait d'autres encore. Contrairement donc aux mémorialistes qui jouissent d'une autorité préalable à leur récit, tous ces témoins s'engagent auprès de leurs semblables sur la seule foi de leur conviction et de leur intégrité personnelle. Ils ne reconstituent pas un parcours de vie dont la continuité et l'unité offrent une garantie en soi, mais ils répondent au contraire à une situation d'urgence, à un traumatisme d'ordre historique. Et plus encore, la représentation qu'ils livrent des événements survenus est destinée à interpeller l'opinion publique, à éveiller les consciences, alors que les auteurs de vie majuscule, et c'est un point sur lequel je reviendrai, visent toujours à une forme de consensus autour des choix qui ont guidé leur existence. C'est un point de définition important. Ces quelques éléments suffisent à montrer que dès la Commune, donc, les mémoires se sont vues fortement concurrencées par les témoignages, que l'on peut appeler, si l'on veut continuer ce parallèle avec la formule des vies majuscules, les récits de vie bouleversés. L'histoire des récits à la première personne, c'est cette traversée, cette rivalité, en quelque sorte, qui va opposer les mémoires tout au long du siècle, dominant depuis Comines, en réalité, depuis Montluc, puis Ray, Saint-Simon, etc., vous connaissez la généalogie, à deux genres qui ont peu à peu mis fin à cet état de domination au XXe siècle, l'autobiographie et le témoignage. Alors, je ne traite pas de l'autobiographie, mais sa victoire sur les mémoires est assez manifeste, bien qu'elle soit en trompe-l'œil, mais ce serait l'objet d'une autre discussion. En revanche, le cas des témoignages, du témoignage est complexe, c'est plus complexe que dans le cas de l'autobiographie, car la concurrence bien réelle n'empêche pas une très grande proximité de but. Proximité de but, puisque le témoin et le mémorialiste ont tous deux pour intention d'agir sur les représentations que leurs contemporains ou que leurs successeurs se font d'une période donnée, de la reconfigurer, quelles que soient les divergences sur les conditions et les manières de procéder que je viens d'évoquer. En droit, donc, rien n'empêche les auteurs de vie majuscule de prétendre à ce statut de témoin historique. Ils l'ont, par le passé, longtemps joué ce rôle, et ils prétendent même encore le faire aujourd'hui. Et vous savez combien on publie de mémoires actuellement, à l'heure actuelle encore. Mais dans les faits, l'émergence du témoignage comme genre littéraire identifié au récit de catastrophe a remis en cause cette prérogative, la remise en question. Et il n'est pas sûr que nous la considérions comme tout à fait justifiée d'un point de vue théorique aujourd'hui. Donc j'aimerais ici préciser un point avant de continuer, un point afin d'éviter toute confusion, c'est une petite parenthèse. Ce que je viens de dire donne peut-être l'impression que je dénigre les mémoires au profit des témoignages, ce qui n'est absolument pas mon intention. Alors peut-être avez-vous eu cette impression, si c'est bien le cas, et si vous avez eu cette impression, c'est peut-être parce que nous avons à présent tendance à juger plus authentique un récit dont l'auteur tient sa légitimité de lui-même ou de ce qu'il a vécu dans sa chair, plus que de facteurs sociaux ou politiques. Et je voudrais montrer qu'un tel critère est tout à fait contestable, ce critère qui est le nôtre contemporain, puisqu'il nous conduit à surévaluer le témoignage au détriment de formes d'attestation du passé qui sont plus traditionnelles mais tout aussi importantes, toujours aussi importantes. Et mon but, c'est bien de voir quelles sont les ressources de certification, ce que j'appellerais les ressources de certification que les mémoires conservent aujourd'hui encore, à une époque où leur bien fondé pourtant est remis en cause par cette figure du survivant. Alors j'en viens, pour plus de précision, au cas des mémoires de guerre, qui va m'intéresser ici, puisque De Gaulle est le mémorialiste contemporain qui a le plus explicitement revendiqué son rôle, ce rôle de témoin historique traditionnel. Alors je suis toujours assez étonné du conformisme qui règne dans les études de lettres au sujet de ce texte, parce que les mémoires du général De Gaulle me semblent personnellement aussi importants pour l'histoire des récits de soi que le seraient les confessions de Rousseau pour l'autobiographie, le journal de Gide ou les mots de Sartre. Et néanmoins, aucune référence n'y est faite dans les ouvrages spécialisés sur la question, si ce n'est de manière très ponctuelle chez quelques chercheurs, comme par exemple Jacques Le Carme, qui est l'un des meilleurs connaisseurs du genre des mémoires à notre époque. Si j'invoque à présent cet exemple de De Gaulle, c'est qu'avec lui, les vies majuscules sont réapparues après la crise qu'elles traversaient depuis la fin du XIXe siècle, sous leur forme la plus canonique. De Gaulle, ce serait en quelque sorte l'aile ultra-légitimiste du genre, puisqu'il exerce dans son récit la plus haute fonction que puisse s'assigner un mémorialiste, à savoir répondre à un état de crise politique, à une menace de division du corps politique de la France. Ainsi que, et cette tradition, cette fonction que peut se donner le mémorialiste, elle existe depuis les origines du genre, depuis les guerres de religion et les mémoires issues des guerres de religion jusqu'au Second Empire. Alors, comment cela se fait-il? Comment procède-t-on? Il s'agit de superposer l'histoire de son existence à l'histoire du pays, en sorte que la première va étayer la seconde et lui conférer une certaine cohérence. Le mémorialiste, c'est celui qui a l'ambition d'obtenir l'accord de ses contemporains ou de ses successeurs sur la représentativité historique et la rectitude politique et morale de son parcours de vie. Ce parcours de vie donnant sens à l'histoire et l'histoire au parcours de vie. Il y a un jeu de conjonction, de superposition des deux, et d'adéquation entre ces deux-là, entre la vie et l'histoire. Alors, ce point s'éclaire, me semble-t-il, si l'on compare les mémoires de 14-18 à ceux qui ont été publiés après 1945. La Grande Guerre s'est achevée sur la victoire. Les quatre années de conflit ont suscité quantité de vies majuscules, mais aucune d'entre elles n'a subsisté dans la mémoire littéraire française, même si, bien entendu, les historiens ou les amateurs de la Première Guerre mondiale continuent à les lire et à s'en délecter et à s'y intéresser. Mais on peut parler tout de même, me semble-t-il, d'une médiocrité des textes publiés, des mémoires publiées après la Première Guerre mondiale. Et cette médiocrité, me semble-t-il, s'explique par, paradoxalement, l'unité nationale. La victoire étant acquise, les intéressés n'ont livré que des récits militaires, sans grande envergure politique, et pas de grand mémoire sans cette dimension politique. Seul Clémenceau aurait pu prétendre perpétuer cette tradition, mais son texte, « Grandeur et misère d'une victoire », qu'il publie chez Plon en 1930, ne répond pas à un projet personnel. Clémenceau a écrit ce texte afin de répondre à des attaques très très politiciennes et assez mesquines, à vrai dire, du maréchal Foch. C'est donc un texte plus ou moins de circonstance, ce qui en limite la grandeur et la force. Le consensus national, donc, en quelque sorte, n'offrait pas prise à une épopée personnelle. Et en lieu et place de mémoire, ce sont d'innombrables témoignages, des journaux, des correspondances, toutes sortes de textes, qu'on regroupe sous le terme témoignages, minutieusement recensés par Jean Norton Cru dans sa célèbre étude Témoin. Ce sont ces textes qui ont façonné, et aujourd'hui encore, notre représentation de la guerre, de cette guerre, la Grande Guerre. Raymond Aron avait noté que la guerre de 14-18 manque de héros, car elle est trop soumise à la loi du nombre, du charbon et de l'acier. Il serait plus exact de dire que les dirigeants et les généraux, qui étaient les préposés légitimes au genre des vies majuscules, s'y sont vus, mais rétrospectivement, puisque dans les deux décennies qui ont suivi la guerre, ce sont bien des mémoires essentiellement qui ont été publiées et qui attiraient l'attention. Mais donc ces textes se sont vus rétrospectivement éclipsés, en quelque sorte, par les soldats eux-mêmes, d'une certaine manière, dont les souvenirs, les journaux, les correspondances et autres mémoires ont peu à peu constitué notre principale source d'information. Il s'est produit ce qu'on pourrait appeler un transfert de gloire qui a dépouillé les instances officielles, les hommes politiques, les chefs militaires, les diplomates, au profit d'une allégorie, c'est l'allégorie du soldat inconnu, devenue le symbole de ce que 14-18 a eu de plus singulier. Et Clémenceau, de façon intéressante, termine ses propres mémoires sur une sorte d'éloge aux soldats inconnus. 39-45, à l'inverse, s'est conclu par la libération. Durant tout le conflit, le pays avait été plongé dans une guerre civile larvée dont l'issue le laissait extrêmement divisé. Les mémorialistes n'avaient donc pas pour rôle de raconter des batailles, mais de rendre compte, de la manière la plus large, consensuelle possible, des quatre années d'occupation. Et c'est le cas des mémoires de guerre. Et je ne vais pas parler de la validité historique du texte, je ne suis pas historien, mais uniquement de son efficacité en tant qu'œuvre littéraire, bien sûr. De Gaulle y établit un vaste récit qui est propre à satisfaire ce désir de concordance rétrospective qu'éprouvent les Français après ces quatre années d'occupation. Autrement dit, il donne, à travers la reconstitution de ses choix, de sa conduite ou de ses jugements, le sentiment que les événements prennent sens a posteriori et que l'histoire du pays, ou que tout bonnement d'ailleurs le pays lui-même, il retrouve en grande partie l'unité, la cohérence brisée, perdue. Pour cela, le général propose à ses concitoyens une reconstitution en trois temps symboliques. Il découpe le drame national en trois actes, de deux années chacune, afin de faire coïncider le récit de la guerre et celui de sa propre action politique et diplomatique. Le premier temps, c'est celui de la transgression et de la chute, temps qui se confond avec l'appel lancé par le tout nouveau général de brigade. Il vient juste d'être nommé général de brigade. Deuxième temps, c'est la lente recherche de l'unité, qui va se superposer aux années les plus sombres de la guerre en France et qui sont occupées pour De Gaulle à reconquérir, conquérir, puisqu'il ne l'avait pas, une légitimité aux yeux de ses propres alliés. Ce qui fait de manière très paradoxale que De Gaulle, au moment le plus dur de l'occupation, ne parle essentiellement de tractations diplomatiques qui ne se passent pas en France, et parle beaucoup plus de ses luttes diplomatiques avec ses propres alliés que de la guerre, d'un point de vue militaire, qu'il pourrait mener contre les Allemands. Mais c'est sa situation. Dernier temps, c'est l'évocation du salut Et de Gaulle lie la résolution du conflit avec l'action de son premier gouvernement, le premier gouvernement de Gaulle, ce qui lui permet d'annoncer, par-delà la victoire militaire, un salut de nature plus politique. Et ce salut de nature politique, il sera atteint à ses yeux, à ses propres yeux, uniquement en 1958, lors de son retour au pouvoir. Donc tout le récit, on le voit, obéit à une puissante dynamique et fait retentir l'appel premier de manière à transformer ce que le mémorialiste avait vécu comme une sorte de convocation personnelle en une injonction collective qui s'applique à tous les Français. La guerre avait été un désastre laissant les Français totalement livrés au maréchal Pétain. Les mémoires de guerre remédient à cet état de fait par un surcroît de rigueur dans leur composition, dans leur organisation. Alors ce qui m'intéresse ici, c'est que l'extraordinaire aura de témoins historiques dont jouit de Gaulle, et aujourd'hui encore, est en grande partie un effet de son récit. Puisque ce que le général restaure, c'est l'autorité autrefois impartie aux mémorialistes, garant traditionnel d'une histoire attachée aux initiatives individuelles, et que de nouvelles instances, donc l'autobiographe et le témoin, ont éclipsé. Et en ce sens, on peut dire que l'étude du témoignage est bien indissociable depuis plus de 100 ans, de celle du témoignage et de celle des mémoires, pardon. En quelque sorte, les deux genres esquissent deux histoires opposées en même temps complémentaires du siècle. Les vies bouleversées sous l'angle de la catastrophe et les vies majuscules sous l'angle de ce que j'appellerais le mémorable. Le mémorable, c'est l'histoire en tant qu'elle est jugée digne d'être racontée par ses propres acteurs. Acteurs soucieux de mettre en œuvre les ressources d'exemplification qui sont propres à leur existence racontée et qu'ils offrent à leurs contemporains. Mais le point sur lequel les mémoires et le témoignage se distinguent le plus radicalement, c'est celui de l'expérience de la violence et de la mort. La conduite de la guerre telle que la conçoit le général, même si ce dernier a des événements une vue plus large et plus lucide que la plupart des autres dirigeants français à l'époque, cette expérience n'intègre que de manière très imparfaite l'idée de la catastrophe. Ce que reconstituent les mémoires de guerre, c'est avant tout un désastre national, une sorte de vacance du pouvoir, à la faveur de laquelle de Gaulle s'est offert comme unique recours politique et diplomatique, et idéologique. Toute la faute originelle pour de Gaulle part de l'acceptation par Pétain et par ceux qui l'entourent de ce qu'il appelle le soi-disant armistice, alors que la situation imposait d'abdiquer localement et de gagner Alger en emportant ce que de Gaulle appelle le trésor de la souveraineté française qui, depuis 14 siècles, n'avait jamais été livré. Je cite ici de Gaulle, une citation que je trouve assez impressionnante, « Un appel venu du fond de l'histoire, ensuite l'instinct du pays, m'ont amené à prendre en compte le trésor en déshérence, c'est une expression qui revient assez souvent, à assumer la souveraineté française. C'est en son nom que je puis appeler la nation à la guerre et à l'unité, imposer l'ordre, la loi, la justice, exiger au dehors le respect des droits de la France. Dans ce domaine, je ne saurais le moins du monde renoncer ni même transiger. » Et il me semble que nulle part ailleurs n'apparaît de manière plus frappante cette homogénéité, cette espèce de solidité du sujet des mémoires de guerre. L'identité gaullienne est à l'unisson du trésor national dont il se fait le gardien. Je notais précédemment qu'un mémorialiste jouit de l'autorité que lui confère un statut ou des actions préalables. De Gaulle va beaucoup plus loin sur ce point. Il va plus loin puisqu'il prétend incorporer, afin d'en être le garant, l'identité de la nation tout entière, au moment même où le gouvernement français lui inflige, 4 ans, c'est ce qui se produit lorsqu'il part, lorsqu'il se réfugie en Angleterre, lui inflige 4 ans de prison, puis, sur appel exigé par le ministre Weygand, le condamne à la peine de mort. Et alors qu'il n'a à ce moment, pour seul fait de guerre, qu'un discours prononcé sur les ondes de la BBC le 18 juin. Donc la singularité du sujet gaullien, c'est ça, c'est cette prétendre être tout au moment où il n'est plus rien. Précisément au moment où il n'est rien, en quelque sorte. Ce qui montre que lorsque de Gaulle parle avec pudeur de son pauvre moi, quand il parle, c'est une expression qu'il emploie, son pauvre moi, pour évoquer le fait qu'il n'a rien, il n'a ni autorité réelle, enfin ni autorité légale, tout du moins, ni armes avec lui, ni soldats. Lorsqu'il parle de ce pauvre moi, il n'évoque pas une crise identitaire, il n'évoque aucun doute sur le sens profond de sa mission. La cohérence de son identité, elle est strictement proportionnelle à la difficulté de sa tâche. Et il me semble que tout oppose cette extrême rigueur au bouleversement que subit pour sa part le témoin, qui est lui porteur d'une vérité beaucoup plus fragile, qui est intrinsèquement fragile. Une vérité corrélative aux événements qu'il a traversés et qui ont radicalement marqué son existence, qui l'ont dépassé au point de le déposséder de toute forme de maîtrise. On est vraiment à l'exact inverse, l'obligeant à faire l'épreuve en lui de ce que Robert Antelme appelle l'espèce humaine. Ce qui reste lorsque on est dépouillé de tout ce qui fait une vie ordinaire. Contrairement au mémorialiste, qui donc s'inscrit dans une tradition, qui s'adresse de plein droit à la postérité, le témoin se trouve dans ce que Peggy nomme dans notre jeunesse une maigre ou une ingrate situation. Il s'adresse à ses concitoyens qu'il s'apprête à heurter, il le sait, et il ne peut céder d'aucune des garanties qui sont offertes aux auteurs de vie majuscule, puisque ce qu'il rapporte, c'est une expérience de confrontation directe avec la mort. La mort, précisément, elle n'est pas loin de se réduire chez De Gaulle à ce qu'on pourrait appeler des dommages collatéraux. Ceci est vrai des pertes survenues dans les rangs de la France libre ou dans les rangs de la résistance qui petit à petit s'unit sous l'autorité de De Gaulle. Mais le point le plus important, bien sûr, à nos yeux, c'est la question très importante du génocide juif. Or, l'extermination n'est chez De Gaulle jamais envisagée en tant que telle, de manière autonome. Elle est toujours soumise à une logique militaire ou politique. Si l'erreur fondamentale de Vichy, c'est bien d'avoir signé l'armistice, alors tout le reste, c'est-à-dire la collaboration, aussi bien que la déportation des résistants ou des juifs, découle de cette source empoisonnée. Aussi, les références à l'antisémitisme sont-elles à chaque fois inscrites dans la liste des crimes nazis, si bien que ce que De Gaulle nomme la persécution des Juifs, et à laquelle il fait référence à plusieurs moments, cette persécution n'est jamais envisagée dans sa singularité. Or, j'ai bien conscience qu'il s'agit d'un point très délicat, d'une question qu'on pourrait interpréter, une attitude qu'on pourrait interpréter de trois manières différentes. On peut très bien y voir le signe d'un aveuglement personnel, voire même d'une forme d'antisémitisme. Deuxièmement, une position réfléchie de la part de Gaulle et qui s'expliquerait par sa volonté de mettre en avant la figure du résistant, mais une figure unifiée où tout le monde est réuni sous cette figure du résistant. Et puis, troisième interprétation possible, un simple effet des mentalités de l'époque. Tout à fait. Et nous pourrons discuter de ce point si vous le désirez, mais c'est une question qui est assez complexe. Et le même cas de figure se pose chez d'autres écrivains qui ont publié assez rapidement après la guerre, comme Malraux ou d'autres. Reste que ce silence nous paraît aujourd'hui choquant. Tout se passe comme si De Gaulle restait indifférent aux questions qui occupent désormais en priorité notre mémoire collective. Cette question notamment donc de la Shoah. Alors on aurait tort, je pense, d'y voir une limite qui serait propre au genre. Le succès contemporain des récits de catastrophes risque de nous rendre, en effet, à notre tour aveugle à ce que la posture du mémorialiste a elle aussi de singulier. Car son rôle à l'égard du passé est moins de certifier que de garantir, c'est-à-dire moins d'établir des faits qui seraient menacés d'être occultés que de réunir ses concitoyens autour d'une histoire commune, vécue comme commune. Et il y a un passage des mémoires de guerre qui m'intéresse beaucoup, qui illustre parfaitement ce point. Ce passage, il s'agit d'une allégorie qui vient conclure le récit de l'épuration juste à la libération, donc un moment très délicat, bien sûr, puisque De Gaulle y évoque, et il était le principal, c'est de lui que venaient les ultimes décisions, cette question de l'épuration. Et ce récit, cette allégorie, est destinée à ouvrir la possibilité d'une réconciliation nationale, autrement dit à préparer à l'intérieur même du texte les lois d'amnistie, dont la première va survenir très tôt, puisqu'elle survient à peu près 10 ans après le début des faits. Et voici cette allégorie, dans le drame national, le sang français coula des deux côtés. La patrie vit les meilleurs des siens mourir en la défendant. Avec honneur, avec amour, elle les berce en son chagrin. Hélas, certains de ses fils tombèrent dans le camp opposé. Elle approuve leur châtiment, mais pleure tout bas ses enfants morts. Voici que le temps fait son œuvre, un jour les larmes seront taries, les fureurs éteintes, les tombes effacées. Mais il restera la France. Grand moment de rhétorique. Et vous avez reconnu dans cet apologue consolateur que De Gaulle raconte à la France, avec lequel il berce la France, c'est une référence évidente au tragique d'Agrippa d'Aubigné qui peignait lui aussi la France, une mère affligée qui est entre ses bras de deux enfants chargés, etc. Cette mère d'Agrippa d'Aubigné, dont le corps servait de champ au combat des deux frères, symbole des catholiques et des protestants, qui était acharné à se battre au point d'ensanglanter le sein maternel. Donc même image, même allégorie, et en substituant le mythe à l'histoire, l'auteur ici estompe en quelque sorte les responsabilités individuelles ou les oppositions idéologiques qui sont comme gommées. La guerre civile larvée qui s'est jouée durant l'occupation ne serait au fond qu'une nouvelle lutte fratricide, dont les origines remonteraient très loin dans l'histoire nationale, bien au-delà d'Agrippa d'Aubigné. C'est toute l'histoire française qui pourrait être racontée sous cette forme-là, mais on pourrait même remonter à la Bible ou à la mythologie, bien sûr. Un conflit entre doubles, dont les différences sont ainsi gommées, l'amour de la patrie suffisant à postuler leur réconciliation à venir. Nous sommes bien là au cœur du genre des mémoires, dont l'une des principales fonctions est d'œuvrer, entre autres par un tel travail d'apaisement, à l'unité du pays. Le but que s'assigne le mémorialiste est de nature fondamentalement, strictement politique. Son rôle de témoin historique, c'est de suturer les divisions. Et on peut bien sûr critiquer le fait que cela conduise à relativiser tout ce qui va déborder le grand récit national, comme le génocide par exemple, ou en tout cas tel qu'on le perçoit à l'époque. Mais du moins doit-on en comprendre la logique, à un moment donné de l'histoire du pays, c'est-à-dire dans les années 50, alors que de violents conflits politiques marquent encore très profondément le pays qui sort tout juste de l'occupation. Alors cette opposition que je viens d'esquisser entre les mémoires telles que l'incarne de Gaulle et puis le témoin comme survivant, cette opposition reste toutefois assez schématique, ou trop schématique. Le général de Gaulle pousse certes à son maximum les possibles du genre, à leur maximum les possibles du genre, mais il ne résume pas à lui seul les évolutions que ce dernier a connues au cours du XXe siècle. Sous l'effet de la concurrence dont je viens de parler, les récits de V majuscule ont, pour une grande partie d'entre eux, intégré une forte dimension testimoniale. Et j'évoque dans Écrire ses mémoires au XXe siècle, l'ouvrage dont parlait Antoine Compagnon, plusieurs cas qui sont très intéressants. L'un des plus intéressants est peut-être celui de Simone de Beauvoir, qui vit la guerre d'Algérie dans La force des choses, avec une force, une violence, une manière d'être requise qu'elle n'avait absolument pas connue lors de la Seconde Guerre mondiale. Et l'occupation, ce qui permet de comparer les deux époques de façon... Et elle la vit comme elle aurait dû vivre l'occupation, ce qui est assez intéressant. Autre cas, c'est celui de Malraux. Malraux qui évoque une très belle scène, écrit dans une très belle scène, une attaque au gaz à Bolgakov sur le front russe lors de la Première Guerre mondiale. Mais cette scène sur le front russe est écrite pendant, en 1943, pendant la Seconde Guerre, et est une manière indirecte d'évoquer là aussi les camps, puisque c'est une attaque au gaz. Et cette scène est publiée à la toute fin du Miroir des Limbes, dans le volume qui clôt le Miroir des Limbes, Lazare. C'est une scène absolument extraordinaire, magnifique, qui est reprise donc d'un roman publié en 1943 et que Malraux voulait abandonner. Il y a aussi le cas d'Élie de Saint-Marc. Élie de Saint-Marc est un personnage très étonnant. C'est un ancien résistant déporté en 1943 qui a combattu ensuite en Indochine, puis en Algérie, où il s'est engagé de façon très forte aux côtés de l'Algérie française, enfin aux côtés des défenseurs de l'Algérie française, et qui donc a été emprisonné une seconde fois, mais cette fois-ci dans les prisons françaises. Où il y aurait le cas le plus évident, bien sûr, c'est celui d'Elie Wiesel. Elie Wiesel, c'est celui dont les mémoires offrent le cas le plus évident d'une fusion harmonieuse entre les deux modèles mémorial et testimonial. Et je voudrais dire ici rapidement un mot plutôt de Victor Serge. Victor Serge, qui est à mes yeux l'un des plus importants mémorialistes de ce siècle, et l'un des plus méconnus aussi. L'alliance entre vie majuscule et vie bouleversée trouve vraiment sa forme idéale chez cet enfant de révolutionnaire russe, exilé à Bruxelles, donc né à Bruxelles, qui a fréquenté durant sa jeunesse les milieux anarchistes. Il était proche de la bande à Bono, il a été emprisonné après leur procès, au cours de leur procès. Puis ensuite s'est consacré au développement de l'Internationale communiste. Il est parti, il a rejoint l'Union soviétique en 1919 et là s'est engagé dans l'Internationale communiste auprès de Zinoviev, avant d'être exclu en 1928 pour activité fractionnelle, c'est-à-dire pour proximité avec Trotsky. Et il est devenu à ce moment-là l'un des principaux opposants au régime stalinien, l'un des plus intéressants en tout cas pour nous, et l'un des rares à survivre à ce régime. Et il n'a survécu que grâce au soutien d'Esprit Libre en France, puisque Serge publiait ses romans en français, donc était connu en France. Il y a eu en 1933-1935 la fameuse affaire Victor Serge, qui lui a permis d'être libéré et de partir du RSS en 1936. Alors, dans les grandes lignes, Rien ne distingue les mémoires d'un révolutionnaire, le texte de Serge, de quantité d'autres vies majuscules. Il y a la même reconstitution d'un long parcours politique, une série de tableaux des bouleversements historiques survenus, des portraits, une sorte de galerie de portraits des leaders politiques rencontrés, tout ce qu'on trouve en général dans les mémoires. Or, tout en se pliant à ces attendus du genre, Serge en déjoue l'ambition, à savoir l'ambition même hausser son existence à la hauteur d'événements historiques. À l'écriture du mémorable, il substitue une attention exacerbée à la violence, au déploiement de la violence. Il s'efface derrière ses fonctions de militant, renonce à toute position de maîtrise et se fait le gardien d'un savoir propre à ce qu'il nomme lui-même un âge du bouleversement de la conscience humaine. Sa situation d'opposant, perpétuellement menacé, sachant tout du système de répression sur lequel repose le système stalinien, aiguise son regard et lui fait prendre la mesure du génocide juif, par opposition à De Gaulle, au point qu'il achève le récit de son parcours politique sur la dénonciation de ce qu'il appelle le crime le plus atroce et le plus funeste de notre temps. Il écrit « Nul ne peut en mesurer aujourd'hui les conséquences politiques, sociales, psychologiques. C'est la notion même de l'humain, acquise en des milliers d'années de civilisation, qui est remise en cause. L'âme de l'homme en sera marquée, il a suffi pour cela d'un décret délibéré par quelques personnes. » Donc les mémoires de Serge sont écrits non seulement en souvenir de morts dont beaucoup n'ont pour seul tombeau que ce seul texte, mais aussi et surtout à partir de la possibilité même de sa propre mort, ce qui en fait un texte plus intéressant, je pense, que les autres, puisque chaque nouvelle publication de l'écrivain, à partir du moment où il entre dans l'opposition, chaque nouveau texte est pour le régime une raison supplémentaire de faire disparaître cet opposant. Écrire revient dans son cas à aggraver la provocation que représente sa propre existence, sa simple existence, et à justifier la répression dont il est victime. Et au moment de quitter l'URSS, d'ailleurs, en 1936, Serge va tenter d'obtenir de la censure un visa pour ses manuscrits, visa qui va lui être refusé. On va le prévenir à temps qu'il va être à nouveau enfermé, et Serge n'a que le temps de s'enfuir, abandonnant ses manuscrits qu'il ne va plus jamais revoir, comme si en quelque sorte le sacrifice de ses manuscrits était une forme propitiatoire, enfin une sorte de sacrifice, un dérivatif à sa propre mort à lui, qui a été évitée. Et Serge se réfugie en France, puis au Mexique, où il rédige ses mémoires, mais ce faisant met à ce moment-là en danger toutes les personnes vivantes qu'il va mentionner dans son texte, dont il va devenir en quelque sorte responsable, puisque toute personne nommée va pouvoir faire l'objet d'enquêtes et de menaces de la part du pouvoir stalinien. Plus que tout autre texte, donc, ces mémoires d'un révolutionnaire sont absolument indissociables des conditions dramatiques qui en ont accompagné la composition. Serge est menacé jusqu'à la fin et jusqu'au moment de sa mort, et continuellement la menace d'une exécution comme celle qu'a connue Trotsky, par exemple. On pourrait parler, dans son cas, d'une sorte de texte de récit nécro-historique, où l'évocation des événements passés n'est plus une manière mémorable de s'unir à l'histoire, et ainsi que Maurice Blanchot a pu en faire le reproche aux auteurs des vies majuscules, mais c'est une forme renouvelée, adaptée à l'âge des totalitarismes, de ce que Chateaubriand appelait un registre obituaire dans les mémoires d'outre-tombe. Je cite le passage, Chateaubriand écrivait « Presque toutes les personnes dont j'ai parlé dans ces mémoires ont disparu. C'est un registre obituaire que je tiens. Encore quelques années, et moi, condamné à cataloguer les morts, je ne laisserai personne pour inscrire mon nom au livre des absents. » Avec Serge, ce ton élégiaque si majestueux de l'enchanteur fait place désormais à une déploration d'un genre nouveau, plus tragique, plus sombre, plus noir, mais qui témoigne aussi, me semble-t-il, de la capacité du genre des mémoires à se renouveler, afin de prendre en charge les virtualités mêmes qui sont celles du genre testimonial. Alors, je vais conclure en revenant très rapidement sur la valeur que l'on peut accorder aux mémoires. Dans ce parallèle entre mémoire et témoignage, nous avons tendance, inévitablement, à opter en faveur du survivant. Le survivant, c'est le dépositaire d'événements exceptionnels, contre le témoin officiel, qui est soutenu, lui, par tout un ensemble de garanties sociales et qui a une visée de nature politique. Le mémorialiste, c'est un témoin impliqué. C'est un acteur de l'histoire, lié à tout un réseau de fidélité, désireux de justifier ses choix et, par conséquent, très facilement soupçonné de partialité. Notre époque est dominée, au contraire, par un désir très vif d'exemplarité éthique, alors que les mémorialistes ont avant tout à offrir une exemplarité de nature sociale et historique. Méfions-nous toutefois. On sait que les romantiques voyaient dans les mémoires une histoire idéale, parce que spontanée, pensaient-ils, directement écrite par ses intéressés eux-mêmes, les intéressés eux-mêmes, et donc d'autant plus objective, pensaient-ils. Ceci nous apparaît tout à fait naïf de leur part. Reste que nos propres historiens font à leur tour des témoins contemporains, des bouches de vérité. L'expression « bouche de vérité » est une formule de Daniel Voltmann, une spécialiste de l'histoire contemporaine. Disqualifiés donc par les spécialistes de l'histoire du temps présent, les mémorialistes voient préférer ces autres sources que sont les journaux, les correspondances ou les témoignages oraux, qui sont jugés plus pertinents, mais dont il n'est pas sûr qu'ils soient nécessairement plus fiables, puisque de même qu'à l'époque romantique, ces sources orales ou écrites, témoignages, tirent une grande partie de leur intérêt, de la valeur que leur prêtent les spécialistes du passé, les historiens. Donc, contre cette tendance contemporaine, j'espère avoir montré ici que les mémorialistes ne sont pas de mauvais témoins. Tout d'abord en raison de l'intrication qui existe entre le genre des vies majuscules et celui des vies bouleversées, qui prouve que les mémorialistes participent à leur manière à l'histoire du genre testimonial, soit en s'en distinguant, en s'y opposant, soit au contraire en répondant, comme Serge Malraux ou Beauvoir, par exemple, à ces exigences. Ensuite, parce que la légitimité aujourd'hui acquise par les témoignages est très largement garantie par les historiens du temps présent, ne doit pas nous aveugler. Elle correspond à un âge, à notre âge, qui est l'âge des commémorations et de la patrimonialisation du patrimoine. C'est notre âge à nous. Il faut en voir les limites. Le mémorable représente au contraire un modèle de mise en forme du passé qui est toujours effectif. Je le disais, il y a toujours un succès éditorial extraordinaire des mémoires. Il ne se dément pas. Et surtout, qui reste toujours disponible. En fonction des circonstances historiques, c'est-à-dire en cas de crise nationale, les mémoires pourront à l'avenir être amenées à retrouver leur place dominante. Si le témoin éclipse à présent le mémorialiste, ce dernier représente ce que j'appellerais pour finir une posture de réserve, une manière de se situer dans l'histoire qu'il sera à nouveau possible de mobiliser, si les circonstances l'imposent, une manière de raconter les événements passés pouvant servir à ressouder ou tenter de ressouder, ce n'est pas toujours le cas bien sûr, les membres d'une collectivité autour d'un passé commun. Voilà, je vous remercie.
Merci pour cette mise au point sur les rapports du témoignage et des mémoires à l'époque contemporaine. Ça pose une série de questions. Je voudrais en dire un certain nombre. D'abord, dans la montée du témoignage dont vous dites, vous la situez à peu près, vous avez parlé,
oui,
de la Commune.
Oui, oui.
La Commune, et puis évidemment, quand on pense au témoignage, on pense au témoignage de la Grande Guerre, hein, dont j'avais parlé la première fois. J'ai envie de dire que le témoignage, si on a des témoignages à partir de ce moment-là, c'est le résultat. C'était pas mal d'avoir parlé de Peggy, justement,
ouais, ouais.
C'est le résultat de l'école. On a des témoignages à partir du moment où il y a une école qui fait que, les poilus peuvent écrire et laisser des témoignages. C'est pour ça qu'on a moins évidemment de témoignages des guerres napoléoniennes, des guerres de la Révolution. On en a. On a des correspondances, mais la grande différence, c'est... me semble-t-il, largement dû au triomphe de l'école.
Ouais.
Et pour la Grande Guerre, c'est l'école de Jules Ferry qui
fait que, tout à fait.
Qu'on a tout ça. Donc, on a les récits, non seulement des généraux et des hommes politiques, mais des poilus, mais de la troupe.
Et qui peuvent être mis en concurrence. C'est tout à fait vrai, effectivement. Je n'avais pas vu sous cet angle, mais
moi, j'aurais tendance à insister sur ça.
Ce qui est compliqué dans le cas du témoignage, c'est que la catégorie peut être mobilisée de plusieurs manières, peut s'appliquer à différentes choses. Des témoignages, on peut en trouver chez Victor Hugo, on peut en trouver ailleurs. Effectivement, ce qui va être ce qui va changer à partir du moment où effectivement on entre au début du fin du 19e siècle. Ce qui change, c'est à la fois la possibilité d'accéder à des textes écrits par des personnes ordinaires, donc qui n'ont pas un statut à défendre ou une position à illustrer, donc des textes qu'on juge très souvent involontaires, puisque s'ils nous parviennent et si on les classe dans la catégorie du témoignage, ils n'ont pas été pensés comme tels forcément au moment où ils ont été écrits, pour beaucoup de correspondances ou de journaux par exemple. Donc il y a une forme d'involontaire, de non-volonté, de non non-anticipation qui en donne une garantie d'objectivité à nos yeux, mais c'est peut-être une illusion là aussi. Ça, c'est le premier élément. Et le second élément, c'est effectivement cette espèce de confrontation qui n'existait pas d'une certaine manière dans le genre des mémoires ou dans les textes autobiographiques qu'on pouvait avoir auparavant. Cette conscience de la violence et de la mort, cette espèce de présence continuelle dans la plupart des témoignages. Il y a un cas un peu compliqué, c'est qu'on désigne témoignage aussi les textes ordinaires, par exemple d'ouvrières, d'agriculteurs, de toute une série de catégories de populations qui ont été en général collectées par des sociologues. On parle là aussi de témoignage et on n'est plus du tout dans ce qui est le cœur du genre tel qu'on le pense aujourd'hui et qui est vraiment dominé par l'ordinaire, permis effectivement par l'école, mais surtout aussi par la conscience de la mort et la conscience du danger, de la violence. Le XXe siècle, c'est le temps de l'entrée dans la violence, dans les violences politiques, dans la violence de masse. Et tout individu pouvant, au cours de la guerre, mais au cours de toute autre circonstance, faire l'objet de cette violence de masse, c'est les guerres mondiales, il y a un genre qui naît et qui est lié à ça, à cette espèce de basculement. Ce n'est plus la guerre comme, effectivement, ce n'est plus la guerre napoléonienne, où on faisait la guerre, c'était un métier, ça fonctionne. Enfin non, il y a la conscription alors, donc ce n'est pas tout à fait un métier, mais il n'y a pas, dans les témoignages en tout cas de soldats des armées de Napoléon, on n'a pas ce caractère massif et cette espèce d'affrontement à une violence collective qui devient énorme, qui est gigantesque, et qui donne aux témoignages, par exemple, des poilus de la guerre, un caractère très, très frappant. Il y a vraiment l'impression qu'il y a une sorte de rupture totale entre le récit qui est fait par les généraux et le récit que peuvent en faire les acteurs.
Et c'est de là que vient cette idée que vous avez développée, que le témoignage est plus authentique. Ceux qui sont dans les tranchées ont une vision plus vraie de la guerre.
C'est une question compliquée. C'est d'une certaine. Ce qui est très étonnant sur cette question, c'est qu'on a toujours l'impression que les historiens produisent les témoignages dont ils ont besoin. Ou l'inverse, on ne sait pas, on ne sait jamais trop. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, le courant le plus intéressant dans les études sur la Première Guerre mondiale, c'est vraiment le courant qui s'intéresse précisément à la question de la violence et des expériences de la guerre, des expériences concrètes de la guerre, la façon dont les individus ont vécu la guerre. C'est vraiment, il y a là tout un courant historiographique très, très intéressant, très important. C'est d'où le fait que tous ces textes, mais c'est aussi, émergent aujourd'hui. Est-ce qu'ils émergent parce qu'ils correspondent à un agenda historiographique? Il est difficile de trancher. Ou alors, est-ce que nous sommes aujourd'hui, en tant que lecteurs, si fascinés par ces textes que les historiens, mais avec un temps de retard, s'intéressent à ces textes? Il est difficile. Il y a une interaction qui est assez complexe à repérer. Mais ce qui est frappant, c'est que la valorisation, la légitimation du témoignage ne va pas sans dévalorisation des mémoires. Comme si les deux textes, les deux genres fonctionnaient de manière, comme une sorte de va-et-vient et dont on pourrait retrouver des antécédents, en quelque sorte, là aussi.
Alors, maintenant, sur les mémoires, et notamment les mémoires du général de Gaulle, j'ai pas tout à fait le même point de vue que vous. Je crois que vous, comme vous l'avez dit, on a peu de mémoires de la Grande Guerre en raison, je crois, là je suis tout à fait d'accord avec vous, en raison de l'Union sacrée et donc d'un certain consensus sur la guerre. Donc il y a des mémoires.
Oui, beaucoup.
Il y a beaucoup de mémoires, mais peu de mémoires qui soient restées du point de vue de la postérité. Et il me semble, peut-être sûrement on en a déjà parlé, que les mémoires sont un genre fondamentalement polémique. Ouais. On écrit des mémoires contre, ouais, contre une autre version, contre une histoire officielle. Mmh. Enfin, bon, je repense aux articles de Marc Fumaroli sur la fronde. Oui. Les mémoires de la fronde s'opposent, les mémoires de la fronde s'opposent à l'historiographie officielle. Oui. J'aurais tendance à dire que cette dimension frondeuse des mémoires, donc polémique, s'élevant contre une autre version de l'histoire, elle est encore présente dans les mémoires du général de Gaulle.
Oui.
Si les mémoires du général de Gaulle font date et sont grands,
oui,
c'est parce qu'ils conservent cette dimension polémique. Et donc, vous insistez autant sur le fait qu'ils cherchent l'unité, à suturer les divisions, moi, j'insisterai plutôt sur l'autre côté des mémoires du général de Gaulle, contre une autre version de la guerre. C'est-à-dire soit la version des Alliés, soit bien davantage encore
la version,
la version communiste.
Oui, bien sûr,
vous n'avez pas
sûr
du tout évoqué l'autre histoire. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est ça qui rend grand les mémoires du général de Gaulle. C'est leur dimension d'hostilité aux autres versions de l'histoire.
Non, donc, je suis tout à fait d'accord avec ça.
Donc, difficile de parler des mémoires du général de Gaulle sans parler de l'autre version de la guerre, qui est la version communiste.
Je suis absolument d'accord avec ça. Oui, tout à fait. C'est polémique, mais la polémique le récit a pour fonction d'écarter totalement la version et d'être proposé à tous. Donc il y a une sorte de... Et les communistes font exactement de la même manière, d'ailleurs procèdent de la même manière. Il y a une façon d'oblitérer l'autre récit, le récit adverse. Il n'y a pas de récit officiel après la guerre, puisqu'il n'y a que des camps très très opposés, très éclatés. Et il y a une place à prendre. Les communistes et De Gaulle essaient de la prendre, et les communistes ne parviennent pas à écrire un récit qui soit aussi... la plupart des grands dirigeants l'ont fait, ils se sentent obligés de le faire, bien sûr, Duclos ou d'autres. Le problème, c'est que les récits commencent mal. 1940... est plus difficile à raconter. Après, oui, mais 1940 est plus difficile. Il y a une force du récit gaullien, une unité du récit gaullien qui fait qu'il fonctionne en tant que récit. Après, évidemment, politiquement, tout le monde a la position. Ça n'a rien à voir. Mais en tant que récit, le récit gaullien fonctionne beaucoup mieux, du début à la fin. Donc, même s'il a une visée, sa condition d'existence est fondamentalement polémique, et là, je suis absolument 100% d'accord, sa visée est unificatrice. Sa visée est et De Gaulle fait toujours ainsi d'ailleurs dans ses discours, consiste à parler au nom de tous les Français, à prétendre inclure tous les Français. C'est le grand récit de la descente des Champs-Élysées qui est absolument extraordinaire, où vraiment De Gaulle gomme toutes les différences idéologiques, absolument tout, même les différences ne voit plus que des personnes dans les gens qui l'entourent et qui l'acclament lors de cette descente des Champs-Élysées, ne voit plus que des hommes, des femmes et des vieillards. Les femmes pleurent, les vieillards tremblotent et puis les enfants crient. Chacun a son rôle selon son âge, mais il n'y a plus que ça, il n'y a plus que des Français réunis dans cette espèce d'acclamation qui légitime De Gaulle, qui lui-même redonne aux Français une identité vierge, une identité de Français et non plus d'occupé ou de l'identité d'avant la coupure, la rupture. Donc il y a vraiment un fonctionnement qui est extrêmement polémique, mais à certains moments du texte, et une façon d'écarter totalement la version adverse, au point que chez De Gaulle, c'est absolument fascinant, De Gaulle raconte et offre un récit de la guerre alors qu'il n'a passé aucun moment sur le sol français pendant les 4 ans. Et qu'il n'a raconté d'une certaine manière, si on veut bien le voir, que des conflits d'ordre diplomatique avec Churchill, avec Roosevelt, etc. Et vous avez certainement lu les mémoires, ça vaut comme récit de guerre, ça fonctionne tout de même comme récit de guerre. On peut se dire que les communistes auraient eu des choses qui étaient sur ceux qui étaient et qui combattaient sur le sol français auraient eu un récit à la limite plus direct à raconter. Et étrangement, même s'il y a beaucoup de mémoires de communistes, les mémoires les plus intéressantes ont été des mémoires de, non pas de dirigeants communistes, et c'est là où il y a une espèce de... mais au contraire des mémoires de résistants de la première heure communiste, puisqu'il y en a eu beaucoup, pas les dirigeants, mais en tout cas les résistants communistes de la première heure, qui sont des individus qui ont gagné leur galon par les armes. Là, on trouve des récits qui couvrent l'ensemble de la guerre, ont une unité, une force très intéressante, mais ce ne sont pas des dirigeants. Et c'est là où De Gaulle parvient à réunir toutes les exigences. Celle de la légitimité, celle du statut, de l'action, et à les ordonner en une sorte de tout qui a une unité extraordinaire.
Ce qui donne le sentiment qu'après tout, les mémoires du général de Gaulle ne sont peut-être pas vraiment des mémoires, parce que les mémoires réécrivent l'histoire,
oui.
Sont avant tout rétrospectifs,
oui.
Alors que les mémoires du général de Gaulle sont prospectifs. C'est tout alors ce oui. discours sur le consensus,
ouais.
Sur la,
ouais.
sur la recréation de l'unité
ouais.
nationale
ouais.
En font un texte ouais. qui n'est pas la réécriture des 4 années ou des 5 années précédentes, mais un texte qui est un programme, un texte programmatique.
C'est un texte programmatique aussi.
Programmatique.
Si, ouais,
ouais. Or, ouais. La dimension programmatique, elle n'est pas habituelle au
tout
genre
à fait.
Des
ouais.
mémoires.
Ouais. Tout à fait.
La dimension programmatique... Enfin,
elle peut chez un homme politique.
Elle peut l'être chez un homme politique et encore, parce qu'en général, on écrit, l'homme politique écrit ses mémoires.
Bah, de plus en plus tôt, en fait.
Ah oui.
De plus en plus tôt. Rocard a écrit les
oui.
siennes très très tôt,
ah oui, bah, alors,
et beaucoup, de,
moi,
et beaucoup pense, d'autres.
Je mais, pensais
ouais.
à des, à des
non, non,
politiques
à des
plus historiques.
D'accord, pardon.
Que Rocard.
Non, non, effectivement.
Un homme politique écrit, oui. lorsqu'il écrit ses mémoires, enfin, on pense aux
oui.
grands mémoires d'hommes politiques,
oui.
Ils ne sont pas plus programmatique.
Absolument. C'est ce qui est impressionnant dans les mémoires de Gaulle, c'est qu'elles paraissent, le premier tome part en 54, 56, le troisième, qui est celui de la libération, en 59.
Oui.
Paraît en 59. Et il est en train de l'écrire lorsqu'il revient au pouvoir. Et on peut penser qu'il y a une conjonction, d'ailleurs, dans sa tête, parce que de Gaulle est quelqu'un qui pense beaucoup son écriture, qu'il y a vraiment une conjonction entre la décision, puisqu'avant, vraiment, il ne voulait pas le faire, il y a eu un moment de retombée complète du projet politique, la décision, tout d'un coup, se lancer, alors même qu'on pouvait prendre son action comme une forme d'affiliation au milieu d'Algérie française. La décision de se lancer et de reprendre le pouvoir est liée à l'écriture du dernier tome, celui de la Libération. Et il paraît en 59. Et ils paraissent sous des couvertures bleu, blanc, rouge. Premier tome blanc, bleu, voilà. Donc il y a vraiment, c'est vrai, c'est un texte qui fonctionne, et c'est peut-être l'un des rares à le faire à ce point, vraiment, qui fonctionne de façon rétrospective et programmatique. Tout ce qu'il raconte sur la guerre est une sorte de programme politique pour 58, enfin pour le retour au pouvoir.
Pour le retour au pouvoir.
Ouais. Ce qui là aussi est fascinant. Enfin, je vois pas beaucoup d'autres
non.
cas. Le cas le plus classique étant le cas du mémoire qui s'écrit, des mémoires qui s'écrivent à la fin d'une existence d'un homme politique comme une sorte de testament laissé à la postérité. On n'y attend pas, on n'attend pas un retour au pouvoir. On laisse, on pense que l'histoire jugera et qu'un témoignage doit être laissé, un testament doit être laissé. En vue de l'histoire.
Oui, on veut laisser sa version de l'histoire.
Voilà.
Et dans la naissance du genre, il y a quand même un grand rapport avec la défaite. Ce
oui.
sont d'abord les vaincus qui écrivent
oui.
leur mémoire.
Oui.
Pour mettre les choses au point. Et là, ce n'est pas
le cas.
Cas.
Oui.
Et donc, à la fois, on ne peut pas dire qu'il n'y a que les vaincus qui écrivent non,
oui.
des mémoires, mais ce sont d'abord les vaincus qui ont
oui.
à donner leur version
oui.
des événements.
Les mémoires de la Fronde.
Jusque ouais. de la Fronde à la guerre d'Algérie.
À la guerre d'Algérie, et absolument. Et dans les deux camps. Ouais.
C'est tous les mémoires oui. des défenseurs de l'Algérie française.
Absolument.
Ouais. Et donc ça rend les mémoires du général de Gaulle d'autant plus exceptionnelles.
Absolument, oui. Oui, tout à fait. Et donc d'autant plus étrange qu'ils intéressent aussi peu les littéraires. Pas les historiens, bien sûr, mais les littéraires en tout cas.
Mais il y a vous.
Oui.
Bon, bah écoutez, on vous remercie.
Merci beaucoup, c'est moi.